Bonsoir, entrons dans un tendu débat consacré aux tensions politiques autour des politiques de sécurité. À l'ordre du jour ce soir, le macronisme est-il devenu sécuritaire ? Trahison des engagements de 2017, dérive autoritaire, État autoritaire, principe de la démocratie libérale remise en cause. Ces expressions sont habituellement celles d'une opposition qualifiant un gouvernement et souvent une opposition de gauche. Mais le plus étonnant, c'est que ces termes ont tous été utilisés par des membres de la majorité LREM élus en 2017, dont certains, il faut tout de même l'avouer, ont quitté depuis le groupe à l'Assemblée nationale. En cause, les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi le projet de loi sur la sécurité globale qui n'a pas été voté par la totalité de la majorité à l'Assemblée la semaine dernière en première lecture. Ce qui, en d'autres temps, aurait peut-être été qualifié de fronde, est-il devenu une cassure ? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec Marie Lebec. Bonsoir Marie Lebec. Vous êtes députée LREM des Yvelines et première vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Avec nous Aurélien Taché, bonsoir.
Bonsoir.
Député LREM du Val d'Oise et fondateur de Nous Demain, mais vous n'êtes plus dans le groupe majoritaire, on en parlera avec vous. Et avec nous également Julien Fretel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez co-dirigé un livre aux presses universitaires de France qui s'intitule L'entreprise Macron. Et le tome 2 est en préparation avec d'ailleurs un chapitre du spécialiste Fabien Jobard, spécialiste de la sécurité et des politiques de police dans la République.
Nous allons tranquillement vers un État autoritaire, vers une suppression des libertés individuelles. Vous savez, les libertés aujourd'hui qui sont mises à mal avec déjà la période sanitaire, le confinement, les restrictions de déplacement. Certes, il faut donner un cadre de protection de nos forces de l'ordre. J'insiste, il faut donner un cadre. Mais je pense que cette loi va beaucoup trop loin, notamment l'article qui fait tant polémique, et que il faut absolument que nous préservions la liberté d'expression dans notre pays. D'autant que, si vous voulez, le cadre juridique pour protéger nos forces de l'ordre, il existe déjà aujourd'hui.
Vous venez d'entendre Nathalie Sarle, députée LREM de la Loire, au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire. C'était le 23 novembre dernier, donc la semaine dernière. Cet article qui fait tant polémique, c'est évidemment l'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale. Alors Marie Lebec, vous qui êtes première vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale, on vient d'apprendre par la bouche de Christophe Castaner que, ça y est, il va être réécrit par les députés des trois groupes qui composent la majorité, Modem, Agir et LREM.
Je crois que le sujet, c'est pas tant sur le fond de l'article qui est remis en question, c'est-à-dire, enfin, le bien fondé de cet article, c'est-à-dire le fait de dire comment est-ce qu'on protège nos forces de l'ordre face à une forme d'insécurité qui désormais les touche et qui parfois touche aussi leur famille. Je crois que nous sommes tous d'accord. En revanche, comme dans tout temps parlementaire, il est normal de travailler à la rédaction des articles, que ce soit à l'Assemblée et au Sénat. On a vu que cet article suscitait des interrogations, des questions, notamment de la part des journalistes. On a fait une première précision dans le cadre de la première lecture, mais finalement, pour faire adhérer la population à cet article, et je crois que c'est important parce que c'est aussi le soutien qu'on montre à nos forces de l'ordre, on a fait le choix, avec les autres groupes de la majorité, d'entreprendre une grande réécriture de cet article pour qu'il colle au mieux au message que l'on souhaite faire passer à nos forces de l'ordre et à notre population en ce qui s'agit de la protection de nos forces de sécurité.
Et seulement cet article 24, parce que les rédactions en particulier demandaient, les sociétés de journalistes demandaient parfois la réécriture ou la suppression de l'article 21, de l'article 23 et de l'article 24. Il n'y a que celui-ci qui va être réécrit, en l'occurrence, par le groupe majoritaire.
Tout à fait. En termes de réécriture en profondeur, ce sera l'article 24. Après, encore une fois, il ne faut pas ignorer ce que c'est la navette parlementaire. Le texte a été débattu dans un premier temps à l'Assemblée. Il est au Sénat désormais.
À partir de janvier.
À partir de janvier. Et il peut, et la discussion va se poursuivre. Si les deux chambres tombent d'accord, alors les articles seront adoptés. Mais il peut y avoir des modifications aussi qui permettent d'enrichir ou de modifier la rédaction des textes.
Alors, ce qui est toujours étonnant, et je donnerai la parole à nos autres invités ensuite, mais ce qui est toujours étonnant, Marie Lebec, vous qui êtes du groupe majoritaire, c'est de voir un groupe, je le disais tout à l'heure, du temps de François Hollande, on aurait appelé ça des frondeurs, scindés, même si il y a une minorité qui n'est pas très importante, mais il y a tout de même une minorité qui n'a pas voulu le voter, ce texte, dans le groupe LREM. Et vous appelez ça comment ? Ce ne sont pas des frondeurs ?
On a, je crois, l'habitude et l'expérience au sein du groupe La République En Marche d'accepter le fait qu'il y ait effectivement une certaine divergence dans les points de vue. Et la richesse de ce groupe, c'est de réussir à faire voter, non pas à l'unanimité, mais à la majorité des dispositions. Et encore une fois, je crois que certains de mes collègues aujourd'hui ne sont pas d'accord, mais j'espère que la réécriture, les différentes lectures entre le Sénat et l'Assemblée permettront finalement de les ramener aussi pour qu'ils soutiennent le texte dans son adoption définitive.
Aurélien Taché, vous avez été élu député LREM du Val d'Oise, mais depuis, vous ne cessez, depuis le début de l'année en particulier, et au printemps dernier, vous ne cessez de critiquer effectivement la politique qui est menée par le gouvernement. Vous êtes fondateur d'un groupe, enfin d'un parti qui s'appelle Nous Demain. C'est un micro-parti, c'est quoi? Un mouvement?
C'est un mouvement politique qui veut finalement permettre à des gens qui auraient envie de s'engager et qui ne trouvent pas dans l'offre politique actuelle quelque chose qui leur convient, d'essayer de tracer une voie nouvelle ensemble. Vous savez, c'était un peu la promesse de départ du macronisme, que d'aller chercher les Français qui étaient fâchés avec la politique. Je crois que on pourra faire le bilan au bout des 5 ans, mais en tout cas sur ce point-là, à mon avis, le résultat sera sans appel. Et donc effectivement, d'essayer de pouvoir, en dehors, parce que moi je suis d'accord que les clivages et l'offre politique traditionnelle est encore très largement, enfin est largement dépassée, c'est-à-dire qu'il y a plus grand monde qui se définit par rapport au marxisme d'un côté ou au gaullisme de l'autre, ça c'était très vrai. Mais en revanche, pour moi, ce qui a été problématique à La République En Marche, c'est qu'on n'a pas su en réinventer les clivages. Parce qu'en fait, le problème de départ vient de là. C'est qu'il y avait un malentendu sur ceux qui pensaient qu'effectivement, on allait finalement moderniser... Alors, est-ce qu'il faut dire la gauche, la droite? On va fâcher personne, mais en tout cas, moderniser un progressiste...
Faites attention à votre micro. Hein. On vous a perdu un moment. C'est bon, maintenant, on vous a à nouveau. Allez-y, continuez.
Je vais essayer de faire attention. En tout cas, il était question de finalement trouver des solutions nouvelles pour porter des combats sur pour les libertés, contre les injustices, et de réinventer finalement des clivages politiques qui soient adaptés à ces enjeux de société-là, mais pas de les faire disparaître complètement et d'embrasser toutes les causes en fonction du moment. Et le problème, à mon avis, il est très largement celui-ci, c'est qu'il y a cette idée d'attacher la politique à des valeurs, à des principes et de réactualiser les manières de les atteindre, ce n'est pas du tout l'idée de La République En Marche. L'idée de La République En Marche, c'est qu'il n'y a pas de principe particulier, il y a juste l'efficacité à tout craint, ouais. Et ça peut emmener dans tous les sens et même au pire.
Parmi les citations que je donnais en ouverture, dans mon texte d'ouverture, trahison des engagements de 2017, dérive autoritaire, état autoritaire, principe de la démocratie libérale remise en cause, vous reconnaissez la vôtre? Vous avez dit principe de la démocratie libérale remise en cause, rien attaché. Oui, vous pensez véritablement que le principe de la démocratie libérale est remis en cause par, disons, la dernière séquence depuis cet été, et en particulier la nomination de Gérald Darmanin?
Petit à petit, on pourrait y arriver. D'abord, moi, vous dites à juste titre hein, que j'ai accentué mes critiques depuis le début de l'année, mais enfin, c'est un processus un peu long, si vous voulez. Il y avait dès le début du mandat des choses qui m'ont surprise sur la loi asile immigration notamment.
Moi, c'était en septembre 2018, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant.
Non, c'était avant ça même la loi asile immigration. J'ai essayé de construire le volet intégration. Donc à cette époque, il y avait encore une forme de et en même temps, mais dès la loi Casseur, là, moi, je note une rupture. Et
c'était début 2019.
Voilà, que je ne voterai pas cette loi. Et là, déjà, vous avez quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que, puisqu'il y a des problèmes dans les manifestations, plutôt que d'essayer de trouver une manière, effectivement, de permettre à la police de mieux assurer le maintien de l'ordre, peut-être en prenant des gens mieux formés pour le faire, mieux expérimentés, bref, en cherchant des vraies solutions pour traiter les causes du problème, on va sur quelque chose qui s'assoit sur tous les principes fondamentaux en matière de liberté individuelle, donner le pouvoir au préfet d'interdire aux gens de manifester en amont sans passer par une décision de justice ni rien. Là déjà, je me suis dit, il y a un vrai problème sur le libéralisme politique, c'est complètement contraire à la philosophie même qui est celle du libéralisme politique, et depuis le début de l'année, on a une succession de décisions qui vont dans ce sens. On a un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il utilise la police en dehors juste pour faire passer des messages en dehors des enquêtes judiciaires. On a un ministre de l'Éducation nationale qui dit que à l'université on peut enseigner ceci mais pas cela, qui met un délit d'occupation finalement dans les universités parce que on veut empêcher le débat ou la contestation. Bref, tous ces principes qui fondent la démocratie sont effectivement petit à petit sapés. Alors pas parce qu'il y aurait une idéologie autoritaire qui habiterait Emmanuel Macron, mais par souci d'efficacité. Plutôt que de traiter les causes des problèmes, on se dit, bon, il y a un problème là, eh bien on va le régler, peu importe ce que ça peut avoir comme conséquence sur le long terme, sur le plan démocratique.
Je donne la parole dans un instant à Julien Frotel qui piétine au téléphone, mais Marie Lebec, est-ce que vous voulez répondre dans une première salve à ce qui vient d'être dit par votre ancien collègue Aurélien Taché?
Oui, bien sûr, ancien collègue. Non, mais je suis forcément pas en phase avec Aurélien, c'est probablement la raison pour laquelle laquelle il a quitté le groupe, c'est les dissensus qu'il pouvait avoir par rapport au positionnement du groupe. Je crois pas que ce soit un souci d'efficacité absolue. Néanmoins, moi, je voudrais quand même qu'on se rappelle les événements. On fait pas la loi anti-casseurs comme ça par plaisir. On fait la loi anti-casseurs parce que on a au moment des gilets jaunes, et c'est pas forcément les gilets jaunes, mais une exacerbation de la violence dans les manifestations. Enfin, moi, excusez-moi, mais je veux quand même que l'on parle de savoir de quoi l'on parle. On parle de l'Arc de Triomphe qui est absolument saccagé. Quelle image est-ce que ça renvoie aux Français? Quelle image est-ce que ça renvoie à la France internationale? Et juste très rapidement, un dernier point. L'article 24, par exemple, moi je viens d'un département, les Yvelines, où il y a 3 personnes qui ont été assassinées après qu'on ait lancé une espèce de vendetta sur les réseaux sociaux à leur égard en donnant des informations personnelles sur savoir où les trouver, leurs horaires de service, leurs horaires auxquels ils quittaient le collège. Eh bien, moi, je suis désolée, mais je trouve aussi qu'il faut être un moment courageux et être capable de prendre le problème à bras le corps, quand bien même ce problème n'est pas une résolution facile, et on l'a bien vu avec les débats qui ont eu lieu ces derniers jours.
Julien Fretel, vous êtes spécialiste de sciences politiques, vous regardez le débat tel qu'il est en train de s'établir entre Marie Lebec et Aurélien Taché, qui dit quand même quelque chose, effectivement, de l'évolution sur une durée relativement longue, 3 ans, de ceux qui et de celles qui ont été élus en 2017 à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce moment en particulier? Est-ce que c'est un moment qui correspond à un moment de la société française? Est-ce que c'est un moment qui correspond, selon vous, à un moment de la vie politique française?
Alors moi, je prendrais ce moment qu'on peut appeler moment de crise et qui est repérable au sein de l'Assemblée nationale notamment, comme un événement révélateur des impasses dans lesquelles, momentanément au moins, la politique d'Emmanuel Macron en matière de sécurité et plus généralement d'ailleurs, et le macronisme, éventuellement, on y reviendra tout à l'heure pour savoir si le macronisme existe, sont pris.
C'est-à-dire ce qu'on appelle les problèmes régaliens. C'est comme ça, en tout cas, que l'opposition de droite qualifie Emmanuel Macron, quelqu'un qui ne prendrait pas assez à bras-le-corps les problèmes régaliens.
Voilà. Et alors, je pense qu'il y a 2 façons d'y répondre. Il y a une façon rapide de répondre à la question de savoir si le macronisme est devenu sécuritaire, et une façon un peu plus subtile et plus longue. Je vais commencer par la rapide, et puis peut-être que plus tard, on aura le temps d'aller sur une approche plus subtile.
En franglais, on appelle ça faire un teasing.
Voilà. Ou alors faire une dissertation en 2 parties. Alors, pour y répondre rapidement, alors il me semble que les politiques de sécurité endossées par Emmanuel Macron, ou imputable à Emmanuel Macron, petit à petit, on finit par se conformer presque totalement aux discours et aux politiques de sécurité qui sont à l'œuvre depuis 20, 25 ans et voire plus, et vis-à-vis desquelles la droite française a comme une sorte de monopole ou de droit de paternité. Moi, je pense qu'il y a plusieurs causes à cela. J'en cite 2 et j'en aurai d'autres. Je pense que depuis 2017 et très rapidement après l'élection présidentielle, l'électorat d'Emmanuel Macron était un électorat de centre-droit. Donc, il y a eu une droitisation des soutiens d'Emmanuel Macron. Donc forcément, ça déporte la question de la sécurité vers la droite. Et puis, il y a eu des effets d'opinion, des effets d'événements, que la droite française, notamment, je pense, à l'été dernier, a su exagérer dans le sens d'un sentiment évident d'insécurité, et qui a obligé Emmanuel Macron à montrer qu'il prenait à bras le corps ces questions de sécurité, et qu'il l'a fait entrer, je pense, davantage dans ce qu'on pourrait appeler une politique sécuritaire. Mais on reviendra aussi là-dessus, parce que dans votre belle question de dissertation, il y a quand même 2 termes difficiles à définir. Le macronisme et ce qu'est une politique sécuritaire.
Eh bien, c'est une bonne manière de faire attendre nos auditeurs. Je voudrais vous lire un petit extrait d'un texte, Marie Lebec. Nous devons collectivement préparer, dès que cela sera possible, une sortie de l'état d'urgence. Celui-ci était indispensable au lendemain des attentats. Il a permis que des mesures immédiates soient prises dans des conditions qui n'auraient pas été réunies sous un autre régime de droit. Je ne prétends pas qu'ils ne doivent jamais plus être mis en œuvre si des circonstances dramatiques devaient à nouveau l'exiger, mais sa prolongation sans fin, chacun le sait, pose plus de questions qu'elle ne résout de problèmes. J'ai tiré ça évidemment du livre-programme d'Emmanuel Macron, Révolution. C'était avant son élection. Cette question, par exemple, peut être une question intéressante. Alors certes, il y a eu des événements qui ont justifié la prolongation de l'état d'urgence, mais tout de même, c'est vrai, état d'urgence donc au point de vue politique et vis-à-vis du terrorisme, état d'urgence vis-à-vis aussi de la santé et état d'urgence sanitaire, tout cela, ça fait, disons, une contradiction, a priori, par rapport à ce programme d'Emmanuel Macron en 2017.
Alors, j'entends ce que vous dites. Il faut quand même rappeler qu'on a voté les lois sur la lutte contre le terrorisme, dit loi SILT dans le jargon Absolument. De l'Assemblée nationale, et qui a permis de sortir de l'état d'urgence. Et qui a,
c'était en 2017
et
d'ailleurs.
Qui était en 2017, justement parce que c'était un enjeu essentiel. Mais nous sommes, par le contexte politique, retournés dans une forme d'état d'urgence qu'on a appelé état d'urgence sanitaire, qui est lié à la crise du Covid. Mais qu'est-ce qu'il permet, cet état d'urgence sanitaire? Il permet davantage protéger les Français. Vous avez dit, est-ce qu'on mène une politique sécuritaire? Il y a la sécurité en termes de protection des biens, de la lutte contre la délinquance, etc., dont on doit parler. Mais aussi la protection des Français dans leur quotidien. Et finalement, cet état d'urgence sanitaire, dont on doit sortir le plus rapidement possible quand on a terminé avec cette crise sanitaire, c'est indéniable, il a permis de donner au gouvernement tous les outils pour continuer de protéger nos concitoyens. Et bien sûr, c'est des outils en termes de protection sociale, mais aussi en termes de protection économique. Je pense par exemple au chômage de longue durée.
Aurélien Taché, est-ce que par exemple, effectivement, par rapport à ce discours de 2017, vous trouvez que le président Macron a changé? Ou est-ce que, bien que n'étant plus dans cette majorité LREM, dans ce groupe LREM, vous pensez néanmoins que, eh bien, il n'y a pas tant de différence entre ce que disait Emmanuel Macron candidat et Emmanuel Macron président maintenant?
Ah si, il y a une différence énorme. Moi, j'ai beaucoup cru en ce que disait Emmanuel Macron. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Simplement, dans la mise en œuvre, ça n'a absolument rien à voir. Vous savez, son livre, c'était Révolution démocratique. C'était vraiment faire entrer la société, les citoyens dans le process de décision, dans les institutions. Toute sa pratique du pouvoir a été exactement l'inverse. Effectivement, on a depuis le début de la crise sanitaire un Parlement qui est mis sous cloche. On a un certain nombre de textes qui passent et qui affaiblissent toujours un peu plus les espaces de dialogue, les corps intermédiaires. La loi ASAP, par exemple, c'est un modèle du genre. Toutes les instances qui pouvaient exister en matière de droit environnemental, en matière de droit de la commande publique, tout ça est supprimé parce que c'est dans l'esprit du macronisme, ça empêche de tourner en rond. C'est ce que je vous dis. Le macronisme, c'est une espèce de culte de l'efficacité. Le débat public, l'espace de dialogue, la question démocratique, c'est vu comme des freins. C'est cette espèce de culture managériale transposée à la politique. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut mener n'importe où.
Ça, vous l'avez pas vu quand vous étiez en train de faire campagne pour Emmanuel Macron en 2017.
Je dois vous dire que c'était pas exactement le message qu'il faisait passer quand il organisait une grande marche pour mener sa campagne, quand il faisait adhérer beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus en politique, quand il voulait justement faire monter à l'Assemblée nationale une nouvelle génération. Tout s'est un petit peu arrêté ensuite. Et l'état d'urgence sanitaire, c'est totalement faux de considérer qu'on protège mieux les Français parce que il y a moins de démocratie. C'est plutôt l'inverse. On voit bien, et on le voit encore avec cette PPL Sécurité Globale, que finalement, à n'écouter personne, à aller trop vite, à ne jamais vouloir essayer de partager la décision et de faire adhérer les Français, eh bien on se trompe. Et vous voyez, l'article 24, c'est typiquement macroniste. On va dire, on va suspendre l'écriture, etc. Mais il n'y a pas vraiment de remise en cause. C'est juste parce que là, il y a eu cette vidéo terrible de Michel Zecler qui nous a tous choqués. Donc évidemment, là on dit, oh là là, va falloir arrêter. Mais au fond, on pense toujours que c'est la meilleure solution. Il ne voit absolument pas le problème. Il n'y a aucune espèce de remise en cause.
Marie Lebec.
Pardon, mais sans interrompre, mais je fulmine parce que l'efficacité n'empêche pas le dialogue. C'est pas deux choses qui sont antithétiques et qui sont opposées. Ensuite, excuse-moi, mais l'article 24 n'a pas de lien avec les événements qui se sont passés à l'égard de Michel Zecler. Les événements qui se sont passés à l'égard de
Michel Zecler. Peut-être des liens avec la manifestation.
Mais c'est le fait que vous repliez sur l'article 24,
avec la manifestation,
Marie, Pascal et Michel Zecler.
C'est indéniable, mais il n'y a pas de lien entre ces deux affaires. Il y a l'article 24 dont on doit débattre et c'est le temps de la vie parlementaire. Et je trouve d'entendre qu'il n'y a pas d'espace de dialogue quand je vois le temps qu'on passe à débattre des textes, quand je vois que la proposition de loi.
Ça a tout de même un lien avec le fait d'avoir été filmé pour les policiers, en l'occurrence. Non, par une caméra de vidéoservice.
Sans l'affaire à République et sans Michel Zecler, l'article 24 aurait été
maintenu. Ce n'est absolument pas le cas, puisque rien ne vous empêche, si vous êtes un citoyen, si vous êtes un journaliste, de filmer, de diffuser des images qui permettent d'identifier des policiers qui ont commis un comportement délictuel. Ça, c'est absolument légal.
C'est parce qu'on avait compris dans la parole de Gérald Darmanin, tout de même, qui a beaucoup...
Oui, pardon, ne nous appuyons pas sur la parole de Gérald Darmanin, appuyons-nous sur les faits et sur le texte, qui a notamment été précisé pour vous dire que ça ne devait n'est pas à être attentatoire aux libertés de la presse. Et excusez-moi, mais encore une fois, on est très clair, je crois, sur l'article 24, c'est si vous dites ce policier habite à telle adresse, vous pouvez le retrouver, et voilà, c'est ça dont on parle. Vous savez, c'est des sites internet, moi j'ai mon collaborateur qui a regardé, des sites internet qui diffusent les informations personnelles des policiers. Est-ce qu'on trouve ça normal? Personnellement, non. Puis pardon, Aurélien, mais la proposition de loi qui est sur la sécurité globale qui est portée par nos collègues, ça fait 2 ans qu'elle est en cours d'élaboration. Donc je crois pas que ce soit du pragmatisme
je vais répondre
très brièvement
sur ce point,
parce que je voudrais donner la parole à...
depuis 2 ans, on avait une proposition de loi qui portait sur la police municipale. Et là, puisqu'on confond tout, là aussi, le Parlement n'étant plus réduit qu'à être une annexe du gouvernement, on a un ministre de l'Intérieur qui a réécrit très largement ce texte lui-même. Les 3 articles concernés, il est de notoriété publique que ce n'est pas du tout Jean-Michel Fauvergue ou les députés de La République En Marche qui les ont souhaités, mais le ministre de l'Intérieur, qui s'est embourbé là-dedans. Et maintenant, le Parlement, Marie Le Bec, le groupe majoritaire, est fâché de s'être fait un petit peu rouler dans la farine par Gérald Darmanin. Et on voit bien la prise de distance qu'elle vient de mettre à l'instant, d'ailleurs, avec le ministre de l'Intérieur. Et donc dit, en plus de nous avoir finalement piqué notre proposition de loi pour en faire son propre projet, il a voulu nous contourner aussi pour réécrire l'article 24 en passant par la commission spéciale. Et on a le problème que j'énonce depuis le départ, c'est-à-dire que comme il y a une confusion des rôles, comme on pense que le Parlement n'est finalement là que pour faciliter la vie du gouvernement et n'a pas à jouer son rôle de contre-pouvoir, on se retrouve dans cet imbroglio démocratique qui a des conséquences, encore une fois, dramatiques, parce que c'est le Parlement dans son ensemble qui est décrédibilisé.
Julien Fretel.
Je reviens à la question.
C'est bien, il faut tenir la dissertation. Deuxième partie.
Voilà. Alors, je sais pas si je vais aborder la deuxième partie, mais c'était sur ce qui est devenu le macronisme en matière de sécurité. Vous citiez tout à l'heure Révolution. Moi aussi, j'avais de bonnes phrases à vous citer. Et on peut dire qu'il y a eu un vrai glissement. On est parti d'un candidat président, d'un président anciennement candidat qui était dans un rapport assez euphémisé à la question de la sécurité, assez distant, et qui, notamment, je pense qu'il y a un tournant au moment des gilets jaunes, petit à petit s'est fait rattraper par une politique de sécurité qui n'a pas été écrite par les macroniens ou le macronisme. Et je pense que d'avoir mis...
Écrite par qui alors?
Elle
s'est écrite toute seule?
Non, elle s'est pas écrite toute seule. C'est-à-dire que petit à petit, il a repris à son compte et son ministre de l'Intérieur plus encore ce qui se dit, se fait, se pense depuis très longtemps et qui est assez majoritaire en matière de politique publique de sécurité. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est pour ça que je pense que au départ, le président Emmanuel Macron n'était pas sécuritaire, mais l'est devenu avec la force des choses et de manière très très processuelle. Gérald Darmanin incarne la politique sécuritaire dans la mesure où c'est quelqu'un. Alors c'est peut-être ce qui va nous permettre de savoir ce qu'est une politique sécuritaire. C'est quelqu'un qui considère que l'insécurité doit être désenclavée des questions sociales avec laquelle elle a partie liée d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ce refus, et c'est pas seulement lui qui l'a inventé, on le retrouve aussi chez Lionel Jospin quand il fait son tournant en matière de sécurité, c'est le refus de considérer l'insécurité aussi comme un phénomène qui doit s'intégrer
dans une politique plus large.
Dans une politique plus large. Et quand il parle d'ensauvagement, c'est très révélateur, très symptomatique.
Ça, c'est au mois de juillet.
Voilà, du discours sécuritaire, c'est quelqu'un qui ne veut plus entendre qu'il y a des causes intelligibles sur lesquelles on peut agir à la délinquance. Donc il y a vraiment ce tournant-là, et choisir Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, c'est vraiment un choix politique assumé, alors même que Gérald Darmanin arrivait avec éventuellement quelques petites fragilités du point de vue d'affaires avec lesquelles il avait été en contact, il l'a assumé, et je pense que ça a été vraiment un tournant, un marquant encore plus fort. Je pense que on peut parler d'un macronisme qui adhère à la politique de sécurité. J'ajoute un dernier point. Depuis les gilets jaunes, c'est presque un paradoxe. Le macronisme se voulait progressiste. Je renvoie à toute une littérature indigène de proches d'Emmanuel Macron qui ont voulu théoriser ce qu'était le macronisme. Et
c'était
un progressisme. Et ce qui est paradoxal, c'est que les politiques de maintien de l'ordre françaises sous Emmanuel Macron sont, quand on regarde au niveau européen, sont sans doute les plus dépassées, les plus datées qui soient. Et donc, on peut dire que la politique sécuritaire macroniste n'est pas du tout progressiste.
Vous écoutez France Culture, il est 18h44.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Bullet, bring the gun, why pull it? Shoot words and see who's full of it. We from the same place, land of the game face. Pluck signs on the jackets, get props, yo, like a prop Joe pack. It's illegal how those kids can come from out of the slums and live so regal. Lose it all on a prayer to the eagle. Before the loss, we earn for the cause. Toast to the life, though my liver won't endure. Currently in time and my enzymes are in sync to digest the brink of Armageddon. The bedding's over the mattress. We lay with the actress for social media to swallow us. Watch them rap peers who don't reply back because they think we're gonna snatch up the Twitter followers. That's some female type foolery. And your females like glue to me. She know it, the scent of a poet, policed by restraint to cover all the angles. The opera of operations, scene one got you and your crew all confident with courage. We'll be there, jumping your square record. You be like, check it, they stress the shit in the rectangles. Damn!
Un extrait d'un morceau de La Soul qui s'intitule Houdini. Vous écoutez Le Temps du Débat. Nous sommes en train de nous poser la question de savoir si le macronisme est devenu sécuritaire en compagnie de Marie Lebec, députée LREM des Yvelines, vice-présidente, première vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Aurélien Taché, qui a été élu sur la liste LREM et qui l'a quitté depuis. Et il est donc député du Val d'Oise, et Julien Fretel, professeur de sciences politiques. Marie Lebec, justement sur ce que disaient à la fois Julien Fretel et Aurélien Taché, c'est-à-dire sur cette question de la sécurité qui nous occupe depuis le début. Est-ce que la nomination de Gérald Darmanin a changé quelque chose à vos yeux par rapport à ce qu'était votre propre vision de ce que devait être la politique sécuritaire de la France du temps, par exemple, de Christophe Castaner ?
Non, mais moi, je trouve que c'est faire bien vite un procès à Gérald Darmanin qui est en poste depuis, je le rappelle quand même, le mois de juillet. Mais moi, je voudrais revenir surtout sur ce qui a été fait. Moi, j'ai écouté Monsieur Fretel à l'instant disant que ça, c'était une politique qu'on essayait d'extraire, qui était décorrélée du reste. Mais pour moi, c'est parfaitement inexact. Parce que depuis le début du quinquennat, non seulement nous avons eu une politique en matière de sécurité, on l'a dit, la loi SILT sur l'antiterrorisme.
La loi Asile-Immigration.
Les lois qui permettaient, la loi Asile-Immigration dans son volet, où elle renforce aussi le contrôle, sans parler du volet intégration.
Je crois aussi
la loi anti-casseurs, mais la loi aussi contre les violences faites aux femmes. Il ne faut pas oublier que la sécurité, c'est aussi la protection des individus. Ce n'est pas que
et la loi Avia sur la
question de la haine en ligne, qui s'il n'a pas pu totalement aboutir comme on aurait pu le souhaiter, a permis aussi de porter le débat au niveau européen. Mais accolé à cette politique, il y a tout un certain nombre de mesures sociales. Monsieur Fretel disait à l'instant, c'est ignorer les causes, la politique qui est menée par le gouvernement. Mais c'est le dédoublement des classes, la politique qui est menée en matière de formation et d'apprentissage, qui permet aussi à des jeunes d'accéder peut-être plus facilement ou dans des meilleures conditions à un travail. C'est ce qu'on a dit en matière de non-assignation à domicile. Je crois que ça, c'est important. Il faut regarder ça comme deux mesures parallèles. Si je comprends bien l'analyse de M. Fretel, c'était consisté à dire vous décorrélez le sujet. Et
désincarcérer de la
Et vous ne traitez pas le social qui va avec la sécurité. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, puisque je crois qu'il y a eu beaucoup qui a été fait en matière justement pour aider les publics les plus fragiles, ceux qui parfois sont le plus touchés par la délinquance, pour justement leur donner d'autres voies et d'autres voies possibles pour envisager leur avenir.
Et d'ailleurs, il y a un de vos collègues, Julien Fretel, qui s'appelle Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, qui avait fait une enquête récente qu'il a présentée le 11 novembre au micro de France Inter, une enquête justement sur ces questions de sécurité vues par l'ensemble des Français.
La société apparaît comme de plus en plus violente pour 72% des personnes que nous avons interrogées, et la thématique d'une réduction de la délinquance emporte absolument tous les électorats. C'est-à-dire que quel que soit l'électorat, ceux qui ont voté en 2017 pour différents candidats, quand on prend ces différents électorats, on a toujours au moins 55-56% des personnes qui considèrent que la question de la sécurité, la question de la violence est une question qu'il faut traiter, une question majeure. Et donc, c'est en ce sens que c'est pas négociable. Un candidat, une candidate qui voudrait, d'ici 2022, laisser de côté ce thème qui préoccupe une très large majorité de des Français dans toutes les catégories, ne pourrait pas véritablement croire en ses chances compte tenu d'une telle impasse.
Oui, c'est ce que disait donc Dominique Régnier sur France Inter le 11 novembre dernier, Julien Fretel brièvement et Aurélien Taché sur cela, c'est-à-dire effectivement une société qui, on le sait par différentes enquêtes d'opinion, est passée plus à droite qu'elle ne l'était auparavant, avec une partie de la gauche qui a changé d'avis, en particulier sur ces questions de sécurité, Julien Fretel.
Alors brièvement, je réponds aux commentaires sur le sondage et puis à ce qu'a dit Madame Lebec. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique autre que des politiques de sécurité. Il y a des politiques scolaires, il y a des politiques sociales, il y a des politiques économiques. C'est évident. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, quand les représentants du gouvernement parlent de sécurité, ils ont tendance à avoir un discours qui désencastre, qui désindexe la question de l'insécurité avec
des conditions sociales. C'est ce que vous voulez dire.
Avec des causes. Et sur les politiques de maintien de l'ordre, ce qui me semble intéressant, c'est que là encore, on reprend un vieux référentiel et on ne fait pas évoluer ces politiques publiques qui, par exemple, je parlais d'un paradoxe tout à l'heure, il y a un double paradoxe, c'est que le macronisme à l'origine se voulait vraiment dans le vent du marketing politique, de la communication, de l'horizontalité, du digital, etc. etc. Et quand on regarde ce qui se fait en Allemagne, par exemple, sur une manifestation, quand on voit que la police a des obligations en matière de communication, dire comment elle va faire, comment elle va procéder, ne pas amalgamer tous les manifestants pour tenir informé, il y a des écrans pour que tout manifestant, enfant, femme, qui veulent y aller pacifiquement, puissent se guider, se diriger, manifester librement. Là, d'une certaine façon, c'est étonnant que le macronisme ne soit pas allé vers les nouvelles techniques de l'information, de la communication, et n'ait pas formé la police en ce sens.
Aurélien Taché, avec vos amis, je crois que vous avez quatre autres députés anciens LREM qui font partie de Nous Demain, après être passés très brièvement dans un groupe qui s'appelait Écologie, Démocratie et Solidarité, enfin une tentative de faire un groupe. Qu'est-ce que vous pensez d'une autre politique de sécurité? Est-ce que vous avez une politique très différente de celle qui était celle que vous aviez épousée en vous faisant donc député LREM dès 2017, ou est-ce que ça serait la même, plus ou moins?
Non, mais d'abord un mot aussi sur, effectivement, moi je pense très important, de parce que c'était exactement le point du départ, c'est-à-dire traiter des conséquences sans toucher aux causes, de rappeler que oui, on ne peut pas déconnecter la montée de la violence dans une société d'un contexte global. Et effectivement, Marielle Beck a rappelé un certain nombre de mesures qui ont été menées, sur lesquelles j'ai rien à redire en tant que tel, mais c'est pas parce que vous dédoublez les classes de CP ou que vous faites une politique de formation que vous allez faire changer quoi que ce soit pour ces fils d'attente à n'en plus terminer, que moi je vois dans ma circonscription pour l'aide alimentaire, avec des familles qui n'y avaient jamais été avant.
Député du Val-d'Oise.
Oui, je suis député du Val-d'Oise. Que vous allez finalement aider les 10 millions de pauvres que la France va connaître l'année prochaine, parce que quand vous faites le bilan depuis 2017 de l'aggravation des inégalités et du taux de pauvreté, eh bien il est mauvais, la pauvreté augmente et les inégalités aussi, ou que vous allez répondre aux 300 000 SDF. Et là-dessus, la majorité a des dogmes. La majorité, là, pour le coup, elle a une vision idéologique. C'est assez rare, il y a peu de sujets, mais sur celui-ci, c'est très clair. C'est vraiment tout pour les entreprises et jamais rien sur la redistribution des richesses ou la demande ou des choses qui
Marie
pourraient
Lebec.
Aider les plus précaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, parce que ça fera augmenter la violence et les tensions dans la société si on n'y prend pas garde. Et il y a aussi la question du racisme et des discriminations, sur lesquelles Emmanuel Macron était très attendu dans les villes populaires comme dans celle là où je suis élu, et où il n'y a pas eu un seul acte politique de poser pour séduire un nouvel électorat de droite. On a préféré reculer sur cette question. Tout ça crée des tensions et de la violence supplémentaire. Et sur la sécurité,
la parole
ensuite,
est à Marie Lebec.
Il faut donner les moyens aux forces de l'ordre, les former, en recruter. Ce
ouais.
n'est pas par des.
J'espère que le président de l'Assemblée nationale, la parole est à Marie Lebec.
Non, mais je boue quand j'entends ça. Non, je crois pas qu'il y ait beaucoup de pays européens ou beaucoup de pays dans le monde qui aient mis un plan de relance sur lequel il y a 100 milliards, dont 33 qui sont redistribués pour la cohésion sociale. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de pays européens qui, dans le cadre de la crise, aient mis tout un certain nombre de dispositifs pour protéger justement les plus fragiles. Les plus fragiles, c'est, je pense, ceux qui arrivaient en fin de droit de chômage, par exemple, au moment de la crise, au moment où on était confinés, et qui ont vu leurs droits s'allonger, justement pour être protégé et ne pas tomber dans la pauvreté. Alors bien sûr, il y a aussi une misère qui s'installe, parce que nous sommes dans une crise qui est très dure d'un point de vue économique, et ça doit nous préoccuper. Nous devons agir collectivement, mais voilà, ne réduisons pas à peau de chagrin les 100 milliards d'euros, dont les 30 milliards qui ont pour vocation justement de soutenir les plus fragiles, et notamment les plus jeunes.
Il y a tout de même quelque chose quand on est comme vous, première vice-présidente d'un groupe comme le groupe LREM à l'Assemblée nationale, on se dit faut se garder
garder à gauche, faut se garder à droite. C'est assez compliqué. Quand vous voyez, par exemple, il y a 4 jours, le tweet d'un conseiller très proche de Emmanuel Macron, maintenant au Parlement européen, Stéphane Séjourné, qui dit assez de scènes choquantes à propos de ce qui s'est passé, du tabassage par les policiers de ce producteur de musique. Il est temps que le préfet de police fasse en sorte que ceux qui font respecter la loi la respectent même, que certains, par leurs actes odieux, n'entachent pas l'image de tous. On se dit, mais là, quand même, c'est très étrange que d'entendre quelqu'un de sa propre majorité prendre la parole de façon aussi vive et de façon publique, parce que c'est un tweet.
Mais je crois que cet énorme malaise qui a été créé par la vidéo, il a été unanimement partagé. Je rappelle quel était le message d'Emmanuel Macron après la diffusion de la vidéo. C'est effectivement de dire on doit le respect à notre police, mais ce respect les oblige aussi énormément en termes de rigueur dans l'exercice de leur profession. Et puis ça doit peut-être nous interroger aussi, ou qu'est-ce que ça doit être finalement la police au 21e siècle, et quels sont les outils sur lesquels on doit s'appuyer. Il y a le livre blanc sur la sécurité qui a été publié, qui parle par exemple d'une académie de la police, qui va aussi étendre le dispositif des caméras piétons, qui permet de voir que les interventions sont faites en bonne due et forme. Et je crois que tout ça, c'est important et ça doit nous interroger. Et c'est aussi le sens de ce qu'a demandé le président au gouvernement, de faire des propositions pour justement à la fois rendre la police plus exemplaire et aussi qu'elle s'adapte finalement à un petit peu ce que sont les attentes du 21e siècle en matière de maintien de l'ordre.
Mais quand un autre député LREM, comme Sacha Houlier, dit sur le rapport aux libertés, il y a une différence de ligne politique entre le ministère de l'Intérieur et la majorité. Qu'est-ce qu'on fait de ça aussi quand on est dans un groupe comme le vôtre, Marie Lebec?
Non, moi je crois que, encore une fois, on est dans la majorité et notre objectif, c'est vraiment de dire il y a des scènes extrêmement choquantes comme celle de Michel Zecler qui nous interrogent et qui nous oblige.
Il parle de deux lignes politiques, donc là on se dit...
Ce ne sont pas deux lignes qui sont irréconciliables. Je veux dire, encore une fois, cette question des bavures policières qui sont prises à bras-le-corps là actuellement parce qu'on a eu cette scène particulièrement choquante, je crois que il faut qu'on en discute, il faut qu'on en débatte, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on veut faire finalement de cette police. Moi, je ne crois pas que la position de Sacha Houlier ou de Gérald Darmanin, elle soit irréconciliable.
Sur ce point, Aurélien Attaché, vous m'avez pas répondu sur la question de quelle est votre politique, quelle serait votre politique différente de celle qui a été mise en œuvre par le gouvernement et par la majorité LREM pour l'instant sur ces questions de sécurité. Écoutez, très brièvement, parce qu'on arrive au bout de l'émission.
Oui, très brièvement. Écoutez, les choses ont commencé à déraper en matière de sécurité en 2005.
Ah, on vous entend plus. En 2000 combien ?
Ah, en 2005, pardon. Vous m'entendez ?
Ouais.
Oui. Quand la police de proximité, qui avait été à peine installée, a été aussitôt retirée par Nicolas Sarkozy, qui considérait finalement que la police n'avait pas à créer du lien social et qu'il valait mieux balancer des phrases à l'emporte-pièce comme « on va vous débarrasser de cette racaille » et commencer à mêler immigration et insécurité comme c'est le cas maintenant depuis 15 ans. Et moi, ce que je regrette profondément, c'est que le macronisme, qui à la base n'avait pas grand-chose à faire avec cette vision un peu qui a été développé par le sarkozisme et la droite décomplexée depuis 15 ans, s'y soit finalement enferré en s'interdisant de réfléchir un petit peu à d'autres manières de faire assurer la sécurité.
Merci.
Dans les quartiers populaires.
Merci beaucoup Aurélien Attaché. Julien Fretel, un dernier mot?
Alors en un mot, c'était ma deuxième partie.
Bah oui, elle va être courte.
Je pense que
c'est comme un examen, on est obligé de l'écrire très vite.
Voilà, c'est la conclusion. Je pense que ces questions de sécurité pourraient être mieux traitées, mieux gérées si les macroniens savaient ce qu'était le macronisme. Je pense qu'il faudrait c'est par slogan, il faudrait macroniser les politiques de sécurité. Donc il faudrait savoir ce que le progressisme peut faire de la sécurité et éventuellement si le progressisme pourrait faire des politiques de sécurité un peu différentes de celles qui ont été mises en œuvre depuis assez longtemps et qui n'ont pas forcément eu beaucoup de succès.
Vous pensez que vous pourriez faire une sorte de travail comme cela dans l'année et demie qui nous reste avant l'élection présidentielle?
Mais tout à fait, parce qu'on est très attendu sur les sujets du régalien. On démarre notamment avec la loi sécurité globale qui renforce par exemple le rôle de la police municipale. C'est aussi de la police du quotidien. C'est la police que vous fréquentez dans votre village tous les jours. Et je crois que les défis restent encore nombreux, mais que le président, comme la majorité arrêter, sont prêts à les relever.
Merci à vous, Marie Lebec. Merci à vous, Aurélien Taché. Je rappelle, Marie Lebec, vous êtes députée LREM des Yvelines. Aurélien Taché, député du Val d'Oise et fondateur de Nous Demain. Et Julien Fretel, professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez co-dirigé l'entreprise Macron aux presses universitaires de France en 2019. Et le tome 2 est en préparation avec un chapitre consacré à la sécurité qui sera écrit par Fabien Jobard, qu'on entend beaucoup ces temps-ci sur nos antennes, parce qu'il vient de sortir un livre sur ces questions des politiques de police en France. Merci à tous les trois. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baye, Hugo Boursier et Iman Gil. À la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui, et à la réalisation, Asia Ralid. Dans le temps du débat demain, faut-il un isolement contraint des malades de la Covid? Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles. Il sera en compagnie ce soir de la comédienne Elsa Lepoivre et on parlera également d'autres questions dans Affaires en cours et dans Affaires à suivre. Vous écoutez France Culture, il est tout bientôt 19h. Ce sont les titres de l'actualité. J'espère que Marie-Hélène Duvigneau est déjà arrivée dans le studio parce que je vous donne l'antenne avec 15 secondes d'avance, dites donc.
Ne vous inquiétez pas, mon cher Emmanuel, je suis là.